Pareto et l'illusion de la stabilité des inégalités. Un point de méthode et d'histoire sur les mesures statistiques des inégalités est ici utile. Nous avons déjà évoqué dans le chapitre 7 le cas du statisticien italien Corrado Gini et de son fameux indicateur visant à résumer les inégalités d'un pays, tellement synthétique qu'il finit par donner une vision un peu trop technique et apaisée, et surtout peu lisible, des inégalités. Un cas plus intéressant encore est celui de son compatriote, Vilfredo Pareto, dont les principaux travaux sont publiés dans les années 1890-1910, à commencer par la fameuse « loi de Pareto ». Dans l'entre-deux-guerres, les fascistes italiens firent de Pareto et de sa théorie des élites l'un de leurs économistes officiels, non sans un certain sens de la récupération. Il faut dire que Pareto avait salué l'arrivée au pouvoir de Mussolini peu avant sa mort en 1923, et surtout que ses thèses sur l'implacable stabilité des inégalités, qu'il serait illusoire selon lui de prétendre vouloir modifier, avaient objectivement de quoi les séduire. Ce qui frappe le plus, quand on lit les travaux de Pareto, avec le recul d'aujourd'hui, est qu'il ne disposait de toute évidence d'aucune donnée susceptible de conclure à une telle stabilité. Pareto écrit vers 1900 « Il utilise les quelques tabulations fiscales disponibles à son époque, issues des impôts sur les revenus appliqués en Prusse et en Saxe, ainsi que dans quelques villes suisses et italiennes dans les années 1880-1890. Il s'agit de données éparses, portant au maximum sur une dizaine d'années, et qui de surcroît indiquent plutôt une légère tendance à la hausse des inégalités, ce que Pareto cherche à dissimuler, non sans une certaine mauvaise foi. En tout état de cause, il est bien évident que de tels matériaux ne permettent pas de conclure quoi que ce soit concernant les tendances de long terme ou la stabilité des inégalités dans l'histoire universelle. Au-delà de la question des préjugés politiques, Pareto se méfiait par-dessus tout des socialistes et de leurs illusions redistributrices, en cela il ne différait guère de nombreux collègues de son temps, comme le roi Beaulieu, qu'il appréciait et sur lesquels nous reviendrons. Le cas de Pareto est intéressant, car il illustre une certaine illusion de la stabilité éternelle à laquelle conduit parfois l'usage immodéré des mathématiques en sciences sociales. En cherchant à étudier à quelle vitesse le nombre de contribuables diminue quand on s'élève dans la hiérarchie des revenus, Pareto constate que ce rythme de décroissance peut être approximé par une loi mathématique que l'on appellera par la suite « loi de Pareto » et qui est simplement une fonction puissance, « power law ». De fait, encore aujourd'hui, les répartitions de patrimoine ainsi que les répartitions de revenus, qui découlent en partie des revenus de patrimoine, peuvent être étudiées en utilisant cette même famille de courbes mathématiques. Encore faut-il préciser que cela ne vaut que pour le sommet de ces répartitions et qu'il ne s'agit que d'une relation approximative, valable localement, et qui peut notamment s'expliquer par des processus de choc multiplicatif tels que ceux décrits plus haut. De plus, et surtout, il est important de bien comprendre qu'il s'agit d'une famille de courbes et non d'une courbe unique. Tout dépend des coefficients et des paramètres qui caractérisent cette courbe. En l'occurrence, les données que nous avons rassemblées dans le cadre de la World Top Incomes Database, ainsi que les données sur les inégalités de patrimoine que nous venons de présenter, démontrent que les coefficients de Pareto ont énormément varié historiquement. Quand on dit qu'une courbe de répartition des richesses suit une loi de Pareto, on n'a en vérité rien dit du tout. Il peut s'agir tout aussi bien d'une répartition où le décile supérieur détient à peine plus de 20% du revenu total, à l'image d'une répartition scandinave des revenus dans les années 1970-1980, que d'une répartition où le décile supérieur détient 50% du total, à l'image d'une répartition américaine des revenus dans les années 2000-2010. Ou encore, d'une répartition où le décile supérieur détient 90% du total, à l'image d'une répartition française ou britannique des patrimoines dans les années 1900-1910. Il s'agit chaque fois de lois de Pareto, mais avec des coefficients totalement distincts. Ces différentes réalités sociales, économiques et politiques n'ont évidemment rien à voir les unes avec les autres. Encore aujourd'hui, certains s'imaginent parfois, à la suite de Pareto, que la répartition des richesses se caractériserait par une implacable stabilité, conséquence d'une loi presque divine. En vérité, rien n'est plus faux. Quand on étudie les inégalités dans une perspective historique, Ce qui est important et ce qui doit être expliqué, ce ne sont pas les légères stabilités, mais bien plutôt les changements considérables. En l'occurrence, s'agissant de la concentration des patrimoines, un mécanisme transparent permettant de rendre compte des très fortes variations historiques observées, au niveau des coefficients de Pareto comme de la part du décile supérieur et du centile supérieur dans le patrimoine total, est lié à la différence RG entre le rendement du capital et le taux de croissance. Pourquoi l'inégalité patrimoniale du passé ne s'est-elle pas reconstituée? Venons-en maintenant à la question essentielle. Pourquoi l'inégalité patrimoniale de la Belle Époque ne s'est-elle pas reconstituée? Et est-on bien sûr que ces raisons soient définitives et irréversibles? Précisons d'emblée que nous ne pouvons apporter de réponse parfaitement certaine et satisfaisante. Plusieurs facteurs ont joué un rôle important et joueront un rôle essentiel à l'avenir, et il est tout simplement impossible d'afficher en cette matière des certitudes mathématiques. La très forte réduction des inégalités patrimoniales à la suite des chocs des années 1914-1945 est la partie la plus facile à expliquer. Comme nous l'avons vu dans la deuxième partie, les patrimoines ont subi une série de chocs extrêmement violents à la suite des guerres et des politiques entraînées par les guerres, conduisant à un effondrement du rapport capital-revenu. On pourrait certes s'imaginer que cette réduction des fortunes aurait dû frapper tous les patrimoines de façon proportionnelle, quel que soit leur niveau dans la hiérarchie, laissant par là même inchangée l'inégalité du capital. Mais ce serait oublier que tous les patrimoines n'ont pas les mêmes origines et ne jouent pas les mêmes fonctions. Tout en haut de la hiérarchie des fortunes, le patrimoine est le plus souvent le produit d'une accumulation venant de loin, et cela prend beaucoup plus de temps de reconstituer des fortunes aussi importantes que d'accumuler un patrimoine modeste et moyen. En outre, les plus hauts patrimoines servent à financer un niveau de vie. Or, les données détaillées que nous avons collectées dans les archives successorales démontrent sans ambiguïté que nombre de rentiers au cours de l'entre-deux-guerres n'ont pas réduit leur train de vie suffisamment vite après les chocs subis par les patrimoines et leurs revenus à la suite de la Première Guerre mondiale et des années 1920-1930, si bien qu'ils se sont retrouvés à amputer progressivement leur capital pour financer leurs dépenses courantes et par conséquent à transmettre un patrimoine sensiblement plus faible que celui qu'ils avaient reçu et ne permettant en aucune façon de prolonger l'équilibre social antérieur. Les données parisiennes sont particulièrement frappantes sur ce point. Par exemple, on peut calculer que les 1% des héritiers parisiens les plus riches disposent à la Belle Époque d'un patrimoine leur permettant de financer un niveau de vie de l'ordre de 80-100 fois plus élevé que le salaire moyen de l'époque, soit un niveau de vie de l'ordre de 2,5 millions d'euros annuels, tout en réinvestissant une petite partie du rendement du capital, de façon à faire progresser légèrement le patrimoine reçu. De 1872 à 1912, le système paraît parfaitement équilibré. Ce groupe transmet à la génération suivante de quoi financer un train de vie également de l'ordre de 80-100 fois le salaire moyen de la génération suivante, voire un peu plus, d'où un accroissement tendanciel de la concentration des fortunes. L'équilibre se brise tout net dans l'entre-deux-guerres. Les 1% des héritiers parisiens les plus riches continuent de vivre approximativement comme par le passé, mais ce qu'ils laissent à la génération suivante permet de financer un niveau de vie d'à peine 30-40 fois le salaire moyen de l'époque, voire 20 fois à la fin des années 1930. Pour les rentiers, c'est le début de la fin. Il s'agit sans doute du mécanisme le plus important expliquant la déconcentration des patrimoines observés dans tous les pays européens et dans une moindre mesure aux États-Unis, à la suite des chocs des années 1914-1945. Ajoutons que la composition des plus hauts patrimoines les exposait plus massivement, en moyenne, aux pertes en capital entraînées par les deux guerres mondiales. En particulier, les données détaillées sur la composition des portefeuilles disponibles dans les archives successorales montrent que les actifs étrangers représentaient jusqu'à un quart des patrimoines les plus importants à la veille de la Première Guerre mondiale, dont près de la moitié pour les obligations publiques émises par les États étrangers, et notamment par la Russie, qui s'apprêtait à faire défaut. Même si nous ne disposons malheureusement pas de données similaires aussi précises pour le Royaume-Uni, il ne fait aucun doute que les actifs étrangers jouaient un rôle au moins aussi important pour les hauts patrimoines britanniques. Or, en France, comme au Royaume-Uni, les actifs étrangers ont quasiment disparu à la suite des deux guerres mondiales. Il ne faut toutefois pas surestimer l'importance de ce facteur explicatif, dans la mesure où les détenteurs des patrimoines les plus élevés sont parfois les plus à même de procéder au bon moment aux réallocations de portefeuilles les plus profitables. En outre, il est frappant de constater que tous les niveaux de patrimoine, et pas seulement les plus élevés, comprenaient à la veille de la Première Guerre mondiale des quantités non négligeables d'actifs étrangers. De façon générale, si l'on examine la structure des patrimoines parisiens à la fin du XIXe et à la Belle Époque, on ne peut qu'être frappé par le caractère extrêmement diversifié et moderne de ces portefeuilles. À la veille de la guerre, les biens immobiliers représentent à peine plus du tiers des actifs, dont approximativement les deux tiers pour des biens immobiliers parisiens et à peine un tiers pour les biens provinciaux, dont une petite quantité de terres agricoles, alors que les actifs financiers en constituent près des deux tiers et se décomposent en différents ensembles conséquents d'actions et d'obligations, françaises et étrangères, publiques et privées, relativement équilibrés à tous les niveaux de fortune. Voir tableau 10.1. On notera que l'immobilier parisien, qui à l'époque se détenait principalement au niveau de l'immeuble dans son ensemble, était inaccessible pour les patrimoines moyens et modestes, qui sont les seuls pour lesquels les biens immobiliers provinciaux, et en particulier les terres agricoles, ont encore une certaine importance. César Birotteau, en refusant à sa femme un placement aussi ringard que quelques bonnes terres près de Chinon, se voulait audacieux et précurseur. Mal lui en a pris. La société de rentiers qui s'épanouit à la Belle Époque n'est pas une société du passé fondée sur le capital terrien et statique. Elle incarne au contraire une certaine modernité patrimoniale et financière. Simplement, la logique cumulative de l'inégalité R supérieure à G la rend prodigieusement et durablement inégalitaire. Des marchés plus libres et plus concurrentiels, des droits de propriété mieux assurés ont peu de chances de réduire les inégalités dans une telle société, puisque ces conditions sont déjà remplies au plus haut point. Et, de fait, ce sont les chocs subis par les patrimoines et leurs revenus à partir de la Première Guerre mondiale qui ont modifié cet équilibre. Rappelons enfin que la période 1914-1945 s'est achevée dans plusieurs pays européens, et notamment en France, par un certain nombre de redistributions qui ont beaucoup plus fortement touché les plus hauts patrimoines, et en particulier les actionnaires des grandes sociétés industrielles, que les patrimoines modestes et moyens. On pense notamment aux nationalisations-sanctions de la Libération. L'exemple emblématique est celui de la régie Renault, ainsi qu'à l'impôt de solidarité nationale institué également en 1945. Cet impôt exceptionnel et progressif, prélevé à la fois sur le capital et sur les enrichissements survenus au cours de l'occupation, ne fut prélevé qu'une seule fois, mais ces taux extrêmement élevés ont constitué un choc supplémentaire très lourd pour les personnes concernées.